Place Info.
La crainte de représailles après la mort d'Aboubakr el-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Le ministère de l'Intérieur en France appelle à la vigilance des préfets et des responsables sécuritaires. Et puis, une rencontre à l'Élysée demain. Emmanuel Macron rencontre les représentants du culte musulman, les reçoit, annonce à venir, dit-il, dans les prochaines semaines pour lutter contre le communautarisme. Que faut-il en attendre? Que peut bien dire le président? Débat ce soir dans Les Informés avec François Hernenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro Magazine, David Bouhery, journaliste éditorialiste au service économie et sociale à France Télé, et Sarah Pinard, directrice des études et prospectives chez Via Voice, docteur en sciences politiques. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT. Le triomphe modeste de l'Occident après la mort d'Aboubakr el-Baghdadi, le chef de l'État islamique a été tué la nuit dernière par un raid américain, annonce de Donald Trump aujourd'hui.
La nuit dernière, les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Aboubakr el-Baghdadi est mort. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Il n'est pas mort en héros, il est mort comme un lâche, en pleurant, en gémissant, en se plaignant et surtout en sacrifiant trois enfants avec lui. Grâce à moi, en tant que commandant en chef des États-Unis, nous avons oblitéré son califat à 100%.
David Bouhery de France Télévisions, est-ce que ce soir, vous vous dites que le monde est plus sûr?
Ah non, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on s'est débarrassé d'un symbole sur toute cette horreur, mais ça ne veut pas dire qu'on a réellement éliminé l'ensemble des foyers et le mal. Et d'ailleurs, en fait, entre nous, c'est une vraie chance pour Donald Trump de pouvoir annoncer ça après les trois semaines d'un peu tout et n'importe quoi, en créant encore plus de chaos dans la région. Donc ça lui permet, entre guillemets, de justifier d'être parti comme ça du jour au lendemain en laissant les alliés kurdes précisément dans cette bataille contre le terrorisme. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise, parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout voir, c'est quelles étaient les origines de ce mouvement extrémiste. Et a priori, c'était le chaos créé par la seconde guerre des Américains en Irak. Je ne suis pas sûr que le chaos qui s'est rajouté depuis trois semaines fasse disparaître ces foyers.
J'ai l'impression que Judith Weintraub...
Non, moi je veux bien qu'on dise que l'État islamique est né à cause des États-Unis, mais il faut quand même s'intéresser quand même à la au pédigré d'el-Baghdadi. C'est un type qui s'est radicalisé bien avant 2003, qui était salafiste puis frère musulman, adepte du fondamentalisme et qui rêvait d'un califat bien avant que les Américains envahissent l'Irak. Il faut quand même en mettre les choses à l'endroit.
Mais en faisant tomber un régime sans aucune alternative, ils ont quand même favorisé l'expression de cet extrémisme-là.
Pour répondre...
La nature ayant horreur du vide.
Cet extrémisme-là a pour but d'installer un califat au niveau mondial.
Oui.
Pour répondre à la question de Neila, évidemment que le danger représenté par l'État islamique n'est pas éradiqué, n'a pas disparu ce soir. Le type même de l'organisation, même si apparemment, d'après les spécialistes, c'est assez vertical. Il y a des clans concurrents, mais il y a quand même une espèce de hiérarchie. Donc vraisemblablement, il aura un successeur. D'après le Pentagone, il y a environ 15 000 fanatiques qui sont encore se considèrent comme des soldats de l'État islamique. Jean-Yves Le Drian a dit récemment que l'État islamique était en train de se renforcer et de renaître. Donc
c'est
non,
le principe
tout danger
de
l'islamiste
n'a pas. L'islamiste qu'évoquait Emmanuel Macron, on coupe une tête, il en repousse deux.
C'est un peu ça, oui.
François Hernenwein, quand le ministère de l'Intérieur envoie cette note aux préfectures, aux responsables sécuritaires pour leur demander de redoubler de vigilance, est-ce que ça veut dire que la menace est forcément accrue ou est-ce que c'est du principe de précaution? Est-ce qu'on peut rassurer nos téléspectateurs ou est-ce qu'il faut quand même être un peu vigilant?
Ni vous ni moi n'avons de lien soutenu avec l'État islamique, donc on ne peut pas
avoir une vision claire de ce que peut être leur stratégie, mais je pense qu'il est raisonnable de la part des pouvoirs publics d'insister dans cette période et d'appeler à la vigilance. C'est normal de dire ça après la mort d'un des leaders mondiaux du terrorisme. C'est raisonnable de penser que dans ces circonstances, il faut rester vigilant. C'est le sens de ce message et ça me paraît frappé au coin du bon sens.
Sur Twitter, Emmanuel Macron réagissait à cette annonce en disant « La mort d'El-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. » Emmanuel Macron, il évoque la coalition internationale David Boueri, mais là, c'est une opération américano-américaine, c'est à mettre au crédit, non pas, même si bon, Donald Trump remercie les Russes hein, au passage, mais
oui, mais d'ailleurs en fait, c'est même quand on regarde la déclaration, hein, c'est même ils sont même les premiers à être remerciés par Donald Trump, ce qui peut paraître un peu surprenant pour les autres alliés, mais il remercie aussi l'aide de la Turquie dans l'opération, et au final il finit aussi quand même par remercier rapidement les forces kurdes. Mais après sur la suite des opérations, enfin je veux dire, on le sait déjà, les Américains y étaient là pour cette opération là mais en fait ils sont déjà a priori partis.
Il justifie d'ailleurs son succès en disant au final notre départ n'a pas eu de conséquences, on a éliminé le plus grand des terroristes.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça la chance qu'il a entre guillemets, notamment pour justifier auprès de son opinion publique que c'était une bonne idée de partir.
Débat à venir dans les informés. Hein. Est-ce que cette annonce tombe à pic pour Donald Trump en campagne pour sa réélection? 20h10 sur France Info, d'abord le rappel de l'info avec Maurice Huynard.
La mort d'Aboubakar al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Réaction d'Emmanuel Macron ce soir après l'annonce du président américain de la mort du chef du groupe État islamique pendant un raid en Syrie. Pour Emmanuel Macron, le combat continue, c'est la priorité de la France, dit-il. Des bourrasques de vent à plus de 130 km par heure en Californie, un vent chaud qui inquiète les autorités, puisque de violents incendies ravagent déjà cet État de l'Ouest américain. Des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer. Deux chauffeurs roumains interpellés à Calais ce matin, la police découvre 8 personnes, dont des enfants, dans leur camion frigorifique. Ils étaient cachés dans un double fond en état de légère hypothermie. Le camion allait embarquer vers la Grande-Bretagne. François Bayrou dénonce la rivalité des candidats à la mairie de Paris issus de la majorité présidentielle. Invité de questions politiques sur France Info et France Inter, le président du Modem appelle à un plan B. Benjamin Griveaux est le candidat officiellement investi. Cédric Villani, le dissident. Aucune personnalité ne se détache de l'autre, dit François Bayrou. La future mosquée de Charleville-Mézières dans les Ardennes, de nouveau la cible de tags racistes, les mêmes que ceux retrouvés jeudi. Le préfet condamne des agissements inacceptables et lâches. Par ailleurs, l'Élysée recevra demain matin les représentants du Conseil français du culte musulman. Et puis la 11e journée de Ligue 1 qui sourit aux Rennais. Victoire 3-2 pour les Bretons face à Toulouse. 2-2 entre Saint-Etienne et Amiens. À 21h, place au Classico PSGOM, Mbappé titulaire et Cavani remplaçant.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Quelles conséquences pour la France, pour le monde, pour les États-Unis de la mort d'Aboubakr el-Baghdadi, abattu hier dans un raid américain? Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, était l'invité du 14-17 de France Info.
Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de l'islamisme radical qui, comme tous les fanatismes religieux ou politiques à travers le monde et les temps, mue. Hein, c'est un véritable virus mutant, le fanatisme, quel qu'il soit, hein, pas seulement au sein de l'islam. En revanche, je pense qu'il y a une pédagogie de la défaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que le porte-parole ou le dirigeant de Daesh ait été abattu, et de cette manière, et par les Américains, fera sans doute réfléchir à un certain nombre de jeunes gens qui seraient tentés par le djihad à travers la planète.
Je vous vois dodeliner de la tête.
J'aimerais bien, Frédéric Ancel ait raison, j'ai peur qu'il soit un peu optimiste. Cette idéologie totalement mortifère a attiré, en étant ce qu'elle était, on ne peut pas dire que ce soit des gens qui vont chercher la fortune et le succès en méprisant le danger. Au contraire, ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie. De ce point de vue-là, je ne pense pas que ça décourage les vocations.
François Lanvin.
Je pense qu'on peut dire même exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on peut nous dire de la même manière et avec la même conviction le fait qu'un événement comme celui-là peut être susceptible de faire naître des vocations, c'est-à-dire dans cette spirale-là que vous évoquiez, Judith. L'horreur n'est pas un obstacle, la mort n'est pas...
C'est même une récompense dans l'idéologie
oui,
de l'État.
Enfin, si on force le trait, oui, mais enfin...
Ah non, non, ça, c'est...
Oui, non, d'accord.
C'est promu comme ça.
Dans la lecture des textes, oui, dans l'expérience existentielle, c'est peut-être un peu différent, mais je pense qu'il y a une hystérisation...
Ni vous, ni moi n'avons vérifié.
Non, mais d'accord. Mais il y a une hystérisation, un goût du sang, de la mort, qui peut, de la même façon, fasciner. Et l'un des dangers de la radicalisation, c'est qu'elle porte sur des choses qu'il est assez difficile de maîtriser dans les cadres raisonnables de la pédagogie, de l'appel au bon sens. C'est pas comme ça que ça marche. Donc une fois qu'on sait ça, il est plus raisonnable de conclure que ça ouvre, en tous les cas, des portes à de nouvelles vocations. Et je pense que les pouvoirs publics pensent à ça quand ils distillent le message qu'ils viennent d'envoyer.
Et face au journaliste, Donald Trump a livré des détails sur cette opération dans un style très particulier, très direct, qui est le sien. On va rejoindre Loïc Loury aux États-Unis pour France Info. Loïc, Donald Trump, il est aussi en campagne pour sa réélection. Est-ce qu'on évoque déjà aux États-Unis les conséquences de ce raid en matière de politique intérieure?
Eh bien, les médias n'en sont pas encore à souligner que la mort de Baghdadi, comme vous disiez, tombe à pic. En revanche, ils s'interrogent sur la façon dont Donald Trump a dévoilé cette information, ce storytelling qui fait penser effectivement que le président vise un gain politique. Il y avait eu ce teasing hier de Donald Trump qui assurait que quelque chose d'énorme venait de se passer. Il y a eu aussi la publication de la photo de la Situation Room, vous savez, où le président a suivi l'opération, comme un certain Barack Obama avant lui le jour de la mort de Ben Laden. Et justement, Neila, Donald Trump a affirmé face aux journalistes que la mort de Baghdadi était un moment plus important que celle de l'ex-chef d'Al-Qaïda, une manière de se faire mousser. C'est pourtant discutable, tant Ben Laden signifie beaucoup pour les Américains après le 11 septembre, bien sûr. Cela n'arrêtera pas, a priori, Donald Trump, qui compte récolter les fruits de cette séquence. C'était ma top priorité, a-t-il d'ailleurs dit. Sous-entendu, il tient ses promesses. Enfin, Neila, ses émules en rajoutent déjà une couche. Tout le crédit revient à Trump, dit par exemple son vice-président Mike Pence. Et puis cette tribune sur le site très sérieux de Hill, intitulée « Trump's unimpeachable foreign policy ». En d'autres termes, la politique étrangère de Trump ne justifie pas à l'heure actuelle la destitution du président.
Merci Loïc Loury à New York. Effectivement, les image de Donald Trump dans la Situation Room rappelle celle de 2011, hein, Barack Obama. Le mimétisme est assez intéressant. 2011, d'ailleurs, c'était arrivé un an avant la présidentielle aussi et la réélection de Barack Obama, hein, la mort de d'Oussama Ben Laden. Sarah Pinard, est-ce que l'histoire se répète? Je rappelle que vous êtes directrice des études chez Via Voice, directrice études et prospectives. Est-ce que ça peut jouer pour la réélection de Donald Trump, ce type d'annonce dans les sondages?
On va pouvoir le voir là dans les prochains jours, mais quoi qu'il arrive, Donald Trump, il est quand même empêtré, il n'a pas une dynamique qui lui est favorable. Là, les derniers sondages Gallup annoncent qu'il est à 40% d'opinion favorable et 60% d'opinion défavorable. Donc quoi qu'il arrive, pour être réélu, il va falloir qu'il arrive à convaincre plus d'un Américain sur deux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est pris quand même, il est empêtré dans un processus d'impeachment. Et si au mois de juin, les Américains n'étaient pas spécialement convaincus, là, en septembre 2019, il commence à se dire, plus de 52% des Américains se disent qu'il devrait être destitué et démis de ses fonctions. Donc sans doute, il y aura une dynamique qui lui sera favorable. Maintenant, de là à voir comment est-ce que ça va évoluer, je ne sais pas du tout.
Dans les sondages, on peut rattraper généralement aussi court, dans les États-Unis ou ailleurs, hein, c'est vraiment là un propos de sondeur que je recherche. Est-ce que un Américain sur deux, c'est de l'ordre de l'impossible, du peu probable? Est-ce que c'est jouable, mais il ne faut faire aucune erreur? Comment est-ce qu'on évalue cette probabilité
Là, il faudrait voir du côté des démocrates si ça se joue. Et franchement, je ne vois pas une grosse dynamique du côté des démocrates pour Donald Trump, même s'il s'est présenté en chef de guerre.
François Hanenwein, quel gain politique pour Donald Trump au lendemain de la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi?
Il y a l'écume, il y a le moment où il s'exprime, donc l'émotion, etc. Et ça a été dit très bien par le correspondant. Pour l'instant, on constate qu'il a parlé comme il a parlé et ça plaît à une part significative de son électorat, pas l'ensemble des Américains. En tous les cas, il consolide son socle dans cette opération. Mais le problème de Donald Trump, si on est dans les projections électorales, c'est pas son socle. Son socle, il l'a. Mais son socle ne lui suffira pas pour gagner. Donc, la problématique pour lui, c'est de gagner du terrain dans l'opinion américaine. Alors là, c'est une victoire. Mais je voudrais revenir un instant sur la comparaison que vous avez faite tout à l'heure. Il y a deux événements, la mort d'un chef terroriste, un président des États-Unis qui commande cette mort. Mais passez-vous en boucle les deux interventions, vous verrez qu'elles ne sont absolument pas de même nature. Les mots choisis ne sont pas les mêmes. Le président Obama fait sa déclaration annonçant la mort d'Oussama Ben Laden et se retire. Le président des États-Unis en rajoute trois couches sur un mode qui plaira à son électorat, mais qui est quand même pas une rhétorique à hauteur de la dignité de sa fonction. Je pense que parler comme il a parlé, c'est flatter sans doute une partie de l'opinion américaine, mais franchement, quand on observe ça d'Europe, c'est d'une vulgarité assez répugnante. Alors,
je vais donner la parole à David Bouhery. Je ne reprends pas les propos, je laisse David Bouhery de France Télé les commenter.
Non, mais ce qui est vrai, là où je vous rejoins, c'est que l'opinion publique américaine est tellement clivée que c'est pas le genre d'événement qui puisse faire changer d'avis les gens qui sont radicalement contre Donald Trump. Que ça encourage sa base électorale, oui, sans doute. Gros détail quand même par rapport aux États-Unis, c'est que il n'est pas nécessaire d'avoir la majorité des voix. Hein. C'est juste un petit rappel. Donald Trump n'a pas été élu.
Il n'avait déjà pas eu la fois dernière, donc il n'a pas ses chances ce coup-là.
Oui. Donc, il faut juste rappeler que l'élection de Donald Trump, c'est juste d'être arrivé quasi, enfin, dans des élections très digitales, d'être arrivé à quelques milliers de voix près, de faire basculer certains comtés, faisant basculer trois États qui lui ont permis d'obtenir la majorité. Il n'a pas la majorité des voix, il ne l'a jamais eu.
Ça veut dire que rien n'est perdu, je dis de 23.
Non, rien n'est perdu.
Et en perdu plus, dans quel sens?
Pour Donald Trump. Et en plus, là, il marque un point dans un domaine où il n'en avait pas du tout marqué, où même il suscitait un doute parce que son lâchage des Kurdes a été mal vécu aussi par une partie des Américains et effectivement par son propre camp conservateur. Trump, ce que les gens qui le soutiennent apprécient chez lui, c'est ses résultats en économie. Chômage à 3,7 qui est proche de son minimum, l'économie va bien, sauf que vous avez un spectre qui se profile à l'horizon et à l'horizon de la présidentielle, c'est celui de la récession. Et en cas de récession, là, Trump se trouvera beaucoup plus fragilisé. Et
dans quelques instants, nous intéresserons un autre rendez-vous qui n'est pas la présidentielle américaine, qui est celui de demain à l'Élysée. Je vous en dis plus juste après le rappel de l'information, 20h20 sur France Info, l'info avec Maureen Suinard.
Il était le terroriste le plus recherché au monde. Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Le chef du groupe État islamique, annonce faite par Donald Trump depuis la Maison Blanche. Les forces spéciales américaines l'ont localisé dans le nord de la Syrie, puis il a déclenché sa ceinture d'explosifs la nuit dernière. Pour Emmanuel Macron, sa mort n'est qu'une étape. Le combat continue, dit-il. Moscou, de son côté, exprime ses doutes sur le sujet et dit ne pas avoir d'informations fiables confirmant la mort d'al-Baghdadi. Pour la première fois de son histoire, la Belgique a une femme à la tête de son exécutif. Sophie Wilmès devient première ministre par intérim. À 44 ans, elle est nommée par le roi. Cela fait des mois que les négociations piétinent entre les différents partis pour tenter de former un gouvernement. La grève qui touche les TGV Atlantique s'arrêtera quand la direction daignera discuter. C'est ce que dit le secrétaire fédéral Sud Rail sur France Info. Seulement 30% des trains en circulation demain sur cet axe. Une grève au technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine est en cause. Plusieurs centaines de personnes rassemblées à Paris pour dénoncer l'islamophobie et la stigmatisation des musulmans, notamment de la part des politiques et des médias, disent les manifestants. Demain matin, Emmanuel Macron recevra les représentants du Conseil français du culte musulman. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de rugby, Afrique du Sud, Angleterre. Ce sera samedi prochain. Les Sud-Africains qui ont battu le Pays de Galles 19-16 ce matin. Les deux équipes étaient au coude à coude jusqu'à la 76e minute.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neil Alatrousse.
Maureen Chouinard vient de vous l'annoncer. Hein. Rendez-vous demain, 10h à l'Élysée. Les représentants du culte musulman rencontrent Emmanuel Macron. Rendez-vous confirmé sur France Info par Dalil Boubaker, président de la Grande Mosquée de Paris, qui s'inquiète de la stigmatisation croissante des musulmans. Écoutez.
Sur toutes sortes de médias, il y a une véritable surabondance de discussions concernant les musulmans, concernant leur vie. Et véritablement, ça pose un problème important aux musulmans eux-mêmes qui sont inquiets de voir certains amalgames. Et il faut ne pas oublier qu'ils se veulent, et je vous le dis et le redis, des citoyens comme tous les autres, des citoyens français. Ça suffit tout de même. Trop, c'est trop.
Ça suffit, trop c'est trop, dit Dalil Boubaker dans cet entretien accordé à Sandrine et toi en deg. François Ehrenwein, rédacteur en chef, éditorialiste à La Croix, on connaît les positions de votre journal. Est-ce qu'il a raison, Dalil Boubaker, quand il parle de débats réducteurs ces dernières semaines?
Ah oui, enfin, on est dans la caricature. Il y a un problème de circonstance, on évoquera peut-être tout à l'heure le sondage du JDD qui montre que l'opinion française est favorable à des mesures fermes contre le communautarisme et précisément contre le voile. Mais c'est un élément de contexte, on est quelques semaines après un attentat à la préfecture de police de Paris, il y a eu une forme d'inquiétude et puis aussi autour de l'incident qui s'est produit il y a 15 jours au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, on est dans un climat où les musulmans sont montrés du doigt, source d'inquiétude, et puis voilà, donc je comprends que les représentants de la communauté musulmane disent « calmez-vous, calmons-nous, discutons ». Et il y a une sorte de confusion entre la radicalisation, l'ensemble des musulmans qui vivent très paisiblement en France. Ce paysage est mauvais pour un débat de qualité sur la laïcité. Et si le président doit intervenir, il faudra qu'il tienne un discours équilibré. On ne peut pas continuer dans cette pente.
Julie de Weintraub du Figaro, vous entendez le « ça suffit » de Dalil Boubaker?
Oui, je suis absolument pas d'accord. Moi, je ne vois personne qui montre les musulmans du doigt. En revanche, l'amalgame, je le vois pratiqué par les gens qui hurlent à l'islamophobie et qui considèrent que quand on critique le voile, on critique toutes les femmes musulmanes. Ce sont eux qui stigmatisent, ce sont eux qui confondent une forme d'expression dont Emmanuel Macron, dans sa dernière intervention qui ne brillait pas par sa clarté, a reconnu qu'elle pouvait être un signe de volonté séparatiste, un signe de communautarisme, et qu'il voulait le combattre. Donc ce débat extrêmement confus, où on inverse les valeurs, où les femmes voilées...
Vous, la confusion n'est pas apportée par ceux qui disent que le voile doit disparaître, par exemple, de l'espace public.
Excusez-moi, j'ai pas entendu le début.
Pour vous, la confusion n'est pas apportée par ceux qui disent que le voile doit disparaître de l'espace public, qui font le lien avec l'attentat de la préfecture, comme Julien Oudoul, par exemple, cet élu du Rassemblement National.
Non, moi, je ne dis pas que toutes les femmes voilées portent un projet communautariste et veuillent transformer la société française. A fortiori, je ne dis pas que toutes les femmes voilées sont des terroristes en puissance. En revanche, toutes les terroristes et toutes les communautaristes partisanes d'une islamisation de la société française portent le voile et sont pour que les femmes portent le voile. Vous voyez la différence ?
Dans le sondage,
c'est dans l'autre sens.
Dans le sondage de l'IFOP pour le JDD ce dimanche, 80% des sondés considèrent que la question de la laïcité se pose différemment s'agissant de la religion musulmane. Je m'adresse encore une fois à la sondeuse de notre panel, hein, Sarah Pinard, directrice études et prospectives chez Via Voice. Comment expliquez-vous ce chiffre, 80% des sondés qui considèrent que la question de la laïcité se pose différemment lorsqu'il s'agit de la religion musulmane, et quelle enseignements vous retirez de manière générale du sondage de l'IFOP, assez dense, hein.
Assez dense, moi, il y a trois enseignements que je retiens. Le premier, et je tiens à préciser ce fait-là au tout début, la laïcité, c'est un sujet qui est important, mais c'est pas un sujet qui est prioritaire. par rapport à d'autres sujets de société comme l'éducation, comme la santé, comme les sujets de consommation. C'est ça qui intéresse véritablement les Français.
Pour vous, c'est le premier enseignement à tirer du sondage?
C'est une des priorités. À chaque fois, on en fait tout un bruit autour de la laïcité. C'est pas ce qui intéresse la plupart du temps les Français. Ça n'arrive qu'en sixième position. Ce qui intéresse les Français, c'est les sujets de consommation parce qu'ils se posent des questions du quotidien. Est-ce que je peux offrir un cartable à mon fils? Est-ce que je peux emmener mes enfants à l'école? Est-ce que je peux circuler en voiture sans que l'essence me coûte trop cher, etc. C'est ça qui intéresse les gens. Mais pour en revenir plus particulièrement sur ce sondage, moi, il y a deux choses que je retiens qui sont intéressantes. On peut lire un refus.
Vous voulez nous donner un enseignement et on fait l'autre après l'info, Sarah Pinard. On a le temps après.
Un des enseignements que je retiens, c'est le refus de la résurgence du fait religieux dans l'espace public. Mais ça touche toutes les religions.
Et on regardera les chiffres dans le détail dans quelques instants. 20h27 sur France Info, la météo, le journal, et on se retrouve pour la suite du débat dans les informés. Mais d'abord le trafic avec Manon Vautier-Cholet. Le trafic est dense en direction de Paris.
Oui, notamment sur l'autoroute A13 avec une circulation très chargée depuis le péage de Vaucresson jusqu'à la Porte Maillot et le périphérique parisien. C'est chargé également sur la 6 A et B en direction des portes d'Orléans et d'Italie pour rejoindre le périphérique avec une vingtaine de minutes de route depuis la ville de Vissous. À signaler aussi cet accident sur l'autoroute A7 juste avant la ville de Rognac dans le secteur de Marseille.
France Info Météo. Avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Les prévisions avec vous, Jean-Michel Golinski.
Un début de semaine dans la fraîcheur pour la moitié nord du pays, avec déjà un risque de gelée blanche en fin de nuit au nord de la Seine et pas plus de 10 à 13 degrés au meilleur de l'après-midi des Hauts-de-France à l'Alsace, du Val-de-Loire au bassin parisien et de la Bretagne à la Normandie. Dans la moitié sud, les valeurs plus confortables vont afficher 16 en Rhône-Alpes, 17 à 18 de l'Auvergne au Limousin, 20 à 23 de l'Aquitaine à la Provence et 24 degrés sur la Corse. Les pluies qui ont survolé aujourd'hui une large partie nord vont continuer à arroser faiblement demain les régions centrales de la Bretagne aux Charentes, du centre au Massif central et de Rhône-Alpes à l'Alsace. De part et d'autre, le ciel sera lumineux mais voilé par des nuages d'altitude plus denses de l'Aquitaine à la région PACA qu'au nord de la Seine. Et puis, à noter, les entrées maritimes dans le golfe du Lion, surtout en matinée, et l'arrivée de précipitations plus marquées par la pointe ouest en fin de journée.
h 30 sur France Info, toute l'information avec Olivia Chandiou. Bonsoir Olivia.
Bonsoir Neila, bonsoir à tous. La défaite du groupe État islamique est la priorité de la France. Déclaration ce soir d'Emmanuel Macron, alors qu'il y a quelques heures, le président américain Donald Trump a annoncé la mort d'Abou Bakr el-Baghdadi dans un raid en Syrie. Le chef autoproclamé de Daesh depuis 2014 a déjà été annoncé mort plusieurs fois ces dernières années. Ce soir justement, Moscou fait savoir que le ministère russe de la Défense ne dispose pas d'informations fiables concernant sa mort et évoque des détails contradictoires. L'état d'urgence sera levé ce soir à minuit, heure locale au Chili. Cela fait plus d'une semaine que des centaines de milliers de Chiliens se mobilisent contre les inégalités sociales. Des émeutes avaient éclaté faisant 17 morts. Le président Sebastián Piñera annonce un remaniement du gouvernement. L'extrême droite allemande réalise une nouvelle percée lors d'une élection régionale dans le land de Thuringe à l'est du pays. L'AFD obtient plus de 23% des voix et devient ainsi la première force d'opposition dans cette région de l'ex-Allemagne communiste, Ludovic Piétenu.
Avec un discours ici particulièrement populiste et radical, le parti alternatif pour l'Allemagne relègue la CDU d'Angela Merkel à un score historiquement bas et une troisième place. Il gagne 13 points en 5 ans, la CDU en perd presque 11. L'AFD sera donc la première force d'opposition en occupant 22 des 88 sièges de cette assemblée régionale de Thuringe, la seule des 16 régions allemandes que dirige et continuera de diriger la gauche, Die Linke, en tête et qui améliore même un petit peu son score de 2014 à près de 30%, mais qui devra, si elle ne veut pas être minoritaire, former une coalition avec un allié supplémentaire, en plus des sociaux-démocrates et des Verts avec qui elle gouvernait, conséquence du score de l'extrême droite. C'est une illustration de ce qu'est devenu la politique allemande aujourd'hui. Les partis de gouvernement s'effondrent et il faut désormais aux partis politiques constituer des coalitions acrobatiques à 3 ou 4 pour gouverner et faire barrage à l'extrême droite. Berlin, Ludovic Piétenu, France Info.
À La Réunion, le piton de la Fournaise ne montre plus de signes d'activité éruptive. Le volcan est entré en éruption avant-hier pour la 5e fois cette année. Emmanuel Macron recevra demain les représentants du Conseil français du culte musulman. Une rencontre à l'Élysée pour discuter notamment de laïcité. Le président du CFCM dénonce l'ostracisme et la stigmatisation dont sont victimes les musulmans de France. Seulement 3 trains sur 10 circuleront demain sur l'axe TGV Atlantique. Aujourd'hui déjà, le trafic est perturbé sur cet axe en raison d'une grève dans un technicentre des Hauts-de-Seine. En Ligue 1 de football, Rennes s'est relancé après une série noire de 10 matchs sans victoire en battant Toulouse 3 buts à 2. Match nul de partout entre Saint-Etienne et Amiens. Et à suivre dans une demi-heure le Classico, le PSG reçoit l'Olympique de Marseille. Et puis un trésor oublié adjugé à 24 500 000 euros aujourd'hui. Le tableau du peintre primitif italien Cimabue a été vendu aux enchères dans l'Oise.
Les informés, Neila Latrousse.
Avec François Hernenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro Magazine, David Bouhery, journaliste et éditorialiste au service Éco et Social à France Télé, et toujours Sarah Pinard, directrice études et prospectives chez Via Voice, docteur en sciences politiques, qui juste avant le journal nous livrait des enseignements autour de ce sondage de l'IFOP pour le JDD. Est-ce qu'on peut parler de crispation de l'opinion publique autour de la question de la laïcité ?
En fait, c'est toujours très compliqué à interpréter le rapport des Français à la laïcité et à la religion. En fait, ce qui leur a été intéressant dans ce sondage-là, c'est qu'on compare le rapport des Français à la laïcité et à l'ensemble des religions, pour qu'on puisse dire si effectivement il y a un problème ou pas envers une religion ou pas. Là, pour le moment, le sondage ne nous permet pas de le dire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un refus de la résurgence de signes religieux dans l'espace public. Et ça, on peut le voir, par exemple, quand les Français interrogés sont très majoritairement favorables à l'interdiction des prières de rue, à l'interdiction du port de signes religieux, la croix, le voile, la kippa. Donc, ça touche toutes les religions, que ce soit pour les usagers de services publics, les accompagnants de sorties scolaires et les salariés du secteur privé. Et le deuxième enseignement que je trouve qui est intéressant, c'est aussi un refus, là aussi, de la politisation de la religion. C'est-à-dire qu'on on utiliserait la religion comme un instrument de revendication face à la République, en pensant que la religion est au-dessus des lois de la République. Et ça, on peut le voir notamment quand on nous explique dans le sondage que 27% des sondés, pour 27% des sondés, le principe de la laïcité, c'est de séparer la religion du politique. Moi, c'est les deux enseignements principaux que je trouve intéressants dans ce sondage-là.
C'est le fait qu'il faille séparer la religion du politique, mais c'est le débat autour des listes communautaires, Judith Weintraub, qui crée cette crispation autour du politique et du religieux. Parce qu'a priori, la loi de 1905 est claire, il n'y a pas de religion en politique, il y a de séparation entre l'État et le religieux.
Exactement.
Je crois qu'au-delà de la question spécifique du religieux en politique et des listes communautaires qui m'a l'air assez secondaire et en plus réglée par le droit, parce que je vois vraiment pas par quel biais on arriverait à qualifier une liste de communautaire. Au-delà de ça, je crois que ce que vous appelez la crispation de la société française, c'est juste une réaction au fait que la France est le pays le plus touché d'Europe par les attentats islamistes, 263 morts à ce jour, celui qui a le nombre de musulmans le plus important et celui qui est le plus confronté à des signes religieux musulmans dans l'espace. Je suis très étonnée que vous disiez que ce sondage ne permet pas de dire que c'est l'islam qui est vécu comme un problème par une partie de la population française. Quand 80% des sondés vous disent que la question de la laïcité se pose différemment s'agissant de la religion musulmane, ça me paraît assez clair.
Il aurait fallu, pour moi, pour prendre beaucoup plus de recul et pour avoir un point de vue objectivé, il aurait fallu comparer cette question-là sur d'autres signes religieux et pas forcément des signes religieux musulmans.
Surtout que moi, ça me donne l'impression qu'il y a un vrai malentendu de qu'est-ce qu'on appelle la laïcité. Parce que la laïcité, c'est de séparer les églises, y compris donc la religion musulmane, de l'État, donc de la politique et donc des affaires de l'État. Ça ne veut pas nécessairement dire, la laïcité en tout cas, que vous n'avez pas le droit d'avoir un signe religieux dans la société, enfin donc dans la rue.
Personne ne dit que ça veut dire ça.
Oui, mais sauf qu'en fait, toutes les polémiques de ces dernières semaines apportent un malentendu sur cette histoire de polémique entretenue soutenu. Alors là, en plus d'un point de vue purement politique, avec ce qui s'est passé au Conseil régional, c'est là qu'arrive ce malentendu. Et dans la lecture du sondage sur le thème de la laïcité pose plus de problèmes vis-à-vis de la religion musulmane, c'est moi, de ce que je comprends indirectement, c'est que c'est plus les signes de cette religion dans la société qui posent éventuellement un problème à une partie de l'opinion publique.
François Hernanvay.
Cher Léla, dimanche après dimanche, on expliquera toujours la même chose. Si on dit le droit est assez simple, la loi de 1905 est très claire. En France, l'État est laïque, la société ne l'est pas. Dans la société, les croyances peuvent s'exprimer légitimement. Et si on voulait supprimer tous les signes religieux dans l'espace public, il faudrait raser les églises, raser les synagogues, etc., qui sont des signes religieux dans l'espace public. Donc, cette lecture aujourd'hui dominante et exacerbée par le climat actuel revient à poser la question de la liberté de croyance dans l'espace public. Si on exige que les croyants ne s'expriment plus dans l'espace public, c'est une limitation de la liberté d'expression. Encore une fois, l'État s'est protégé contre l'expansionnisme voulu ou porté par les religions en séparant ce qui relève de la sphère de l'État et ce qui relève de la société. La loi 1905 et ses multiples adaptations depuis 1905, sa plasticité formidable a réussi à faire de cette loi une loi d'équilibre bien vécue par l'ensemble des Français. Et moi, je voudrais mettre en garde ceux qui, par des biais, des détours, veulent remettre en cause l'équilibre de cette loi de 1905 au nom d'un combat politique là mené. Et ben, ces gens-là prennent un risque très grave d'accroître les tensions dans la société française. Et je pense que plutôt que d'imaginer des modifications, il faudrait faire une pédagogie active sur ce que dit le droit de la loi de 1905 et apaiser les esprits.
Et à nos confrères de RTL ce soir, Emmanuel Macron annonce qu'il fera un certain nombre, qu'il ouvrira la voie à un certain nombre de mesures dans les prochaines semaines pour lutter contre le communautarisme. Judith Weintraub, question pour le coup rhétorique. Emmanuel Macron, quand il parle de communautarisme, c'est parce que c'est un terme plus consensuel dans sa majorité que laïcité ?
Non, parce que dans sa tête, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, ça devrait être deux choses différentes.
C'est le cas.
Le problème, c'est que lui-même n'arrête pas d'opérer un glissement. Regardez, quand il dit la laïcité dans l'espace public, ce n'est pas mon problème, tout de suite après, parlant du voile, il dit, mais quand c'est un signe de communautarisme, fût-ce dans l'espace public, ça devient mon problème. Donc c'est absolument, il entretient la confusion et tout le problème est que le voile peut être un signe, un étendard d'un islam politique. Et c'est ce que distingue les autres signes religieux. C'est pour ça qu'on parle de l'islam.
Et demain soir, je vous fais le pari que sur ce même plateau, le débat se poursuivra après la rencontre d'Emmanuel Macron avec les représentants du culte musulman. 20h40 sur France Info, le rappel de l'info, Maureen Suinard.
La défaite du groupe État islamique reste la priorité de la France. Première réaction d'Emmanuel Macron à la suite de l'annonce de la mort du chef de Daesh. C'était la nuit dernière lors d'une opération militaire américaine menée en Syrie. Pour l'OTAN, il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre le terrorisme international. Ce soir, le responsable des forces kurdes annonce que le porte-parole du groupe État islamique a lui été tué aujourd'hui dans un nouveau raid. Des dizaines de milliers de Libanais, main dans la main, ils ont formé une chaîne humaine longue de 170 km allant du nord au sud du pays. 11e journée de mobilisation pour demander le départ de la classe politique en place et pour dénoncer la corruption. Le président du Conseil français du culte musulman dit avoir beaucoup de choses à faire remonter à Emmanuel Macron. Le président de la République le reçoit à l'Élysée demain matin. Selon Dalil Boubaker, les musulmans en France sont victimes d'un ostracisme en ce moment. Le thème de la laïcité sera aussi abordé. En Corse, les gendarmes recherchent un couple de sexagénaires, des vacanciers originaires de Normandie portés disparus depuis jeudi dans la région de Porto Vecchio. Les thèses de l'accident ou de l'égarement sont privilégiées. Et puis l'incroyable histoire d'un tableau destiné à la déchetterie adjugé à plus de 24 millions d'euros cet après-midi. Un chef-d'œuvre très rare du peintre italien Cimabue, l'une des plus grandes figures de la pré-Renaissance. Le tableau a été retrouvé par hasard dans une maison de l'Oise.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Neila Latrousse.
C'est un adage populaire avec des « si ». On mettrait Paris en bouteille, dit l'adage, qui tombe plutôt bien aujourd'hui. Et si, dans la capitale, justement, un plan B se dressait face à la maire sortante Anne Hidalgo. Et si un candidat alternatif et rassembleur s'imposait à Cédric Villani et Benjamin Griveaux. C'est en tout cas le souhait de François Bayrou, invité de Questions politiques sur France Info.
Je pense que cette rivalité-là, elle est pour l'instant stérile. Aucun ne se détache de l'autre, malgré les qualités qui sont grandes, sans doute, de l'un et de l'autre. Mais aucun ne se détache de l'autre et on est plutôt dans une phase de stagnation. Je vois d'autre part que la droite républicaine elle-même est en panne. Et je vois que les écologistes sont assez largement divisés sur les choix qu'ils doivent
donc
faire.
Donc il faut un troisième
moi, je
homme
vois là, moi, je vois là une majorité possible.
Et avec quelqu'un qui arrive en plus
l'avenir.
Qui
avec,
peut l'incarner ça
Il faut en parler.
Et réponse immédiate de Cédric Villani qui était en même temps au grand jury.
Je ne suis pas le porte-parole de François Bayrou et ma campagne va jusqu'au bout, comme je vous l'ai bien dit.
Et vous attendez le soutien du MoDem? Vous l'espérez encore ou c'est cuit?
Avec le MoDem, nous discutons. Je ne suis pas le porte-parole non plus du MoDem, un parti dans lequel j'ai milité quelques années. Et je vous l'ai dit, je suis dans une démarche de rassemblement.
Judith Weintraub du Figaro Magazine, il n'a pas l'air d'être très content, Cédric Villani, de l'idée de François Bayrou. Hein. Il a l'air de l'avoir un peu mauvaise, si on peut parler
trivialement. Non, il n'est pas bien content. C'est vrai qu'il a une partie du MoDem avec lui, ce qui doit aussi un peu agacer François Bayrou. François Bayrou, je ne suis pas sûre que sa déclaration-là soit entièrement aimable vis-à-vis d'Édouard Philippe, parce que, rappelez-vous, à l'époque, on évoquait déjà à cause de la concurrence Villani-Griveaux un plan B. Le plan B, c'était Philippe. C'était lui qui était censé annihiler la compétition interne et sauver les chances de victoire de la majorité En Marche à Paris, enfin de la majorité d'Emmanuel Macron à Paris. Édouard Philippe a coupé court aux spéculations, il a dit qu'il n'irait pas. Cela dit, François Bayrou a raison de constater qu'en l'état actuel du rapport de force, la seule chose que parviennent à faire Benjamin Griveaux et Cédric Villani, c'est de donner les meilleures chances à Anne Hidalgo d'être réélue.
David Bouhiri, quand il parle de plan B François Bayrou, c'est une idée tout seul ou est-ce qu'on peut imaginer que lui, qu'on présente comme un poids lourd de la majorité, y aille, allez, conseiller aimablement, guidé par on ne saurait qui à l'Élysée?
Alors,
par exemple.
Non mais enfin sur le principe je comprends bien le raisonnement hein, qui est de se dire comme on en a deux et que il y en a aucun qui se détache, on va en mettre un troisième. Ceci dit, c'est quand même une solution un peu compliquée parce que du coup, ça veut dire que vous passez à deux personnes mécontentes, à deux opposants. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément la bonne solution. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, dans cette histoire-là, le parti de la République En Marche risque de payer très très cher le fait d'avoir refusé d'organiser une vraie primaire pour désigner son candidat à Paris. Alors parce que en fait le parti imaginait que c'était couru d'avance, que de toute façon ça avait été quasiment choisi à l'Élysée de façon quasi officielle. C'était Griveaux.
Vous pouvez enlever le quasi à chaque fois. Oui.
Voilà que c'est et que donc la question ne se posait même pas et que en fait Villani on pensait, enfin ils pensaient tous à l'époque que c'était une blague. Sauf que voilà il est toujours là et a priori il ira jusqu'au bout. Donc en fait, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne méthode. Après, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ils sont pas du tout d'accord, hein, si je comprends bien, Bayrou et Villani, mais ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se rassembler. Le problème du rassemblement, c'est autour de qui? C'est toujours la même question.
Se rassembler, c'est une figure de rhétorique, se rassembler.
Non, est-ce que dans les sondages, là aujourd'hui, on est
pour
sûr
avoir
que
la majorité.
S'il y a Cédric Villani et Benjamin Griveaux de l'autre côté, c'est forcément une machine à perdre aujourd'hui en termes de sondage ou l'un des deux pourrait prendre le dessus à terme. On en est où là des dynamiques au niveau de l'opinion et des électeurs parisiens?
Alors là, Cédric Villani, dans les études d'opinion, il est un tout petit peu au-dessus, légèrement au-dessus de Benjamin Griveaux. Et surtout, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir du côté des électeurs. C'est-à-dire qu'il il séduit plus les électeurs de gauche que Benjamin Griveaux. Et en ce qui concerne les électeurs de La République En Marche, c'est 50-50. Donc on va peut-être avoir une dynamique à un moment donné qui va s'orienter vers Cédric Villani et qui va quitter petit à petit Benjamin Griveaux. Surtout que Benjamin Griveaux, il souffre d'une dynamique, on va dire, globalement néfaste pour lui sur un plan national qui peut peut-être impacter l'échelle locale.
C'est-à-dire il est plus lié à Emmanuel Macron. Dans l'image
Oui, et puis surtout, il a une cote de popularité qui ne cesse d'être défavorable de semaine en semaine. C'est-à-dire que en mai 2018, il est à 30% d'opinion défavorable, et la catastrophe en septembre 2019, il est à 48% d'opinion défavorable.
Ce qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est que si on regarde les résultats de la présidentielle comme des législatives à Paris, enfin si on regarde la circonscription de Paris, qui est quand même une circonscription très particulière, je veux dire, la mairie était donnée quasi sur un plateau à La République En Marche. Et de ne pas être arrivé...
Paris, c'est comme les États-Unis, quoi. C'est l'élection par arrondissement.
Sauf que là, à l'heure actuelle, j'ai pas regardé exactement les chiffres, mais si on ajoute les deux, mathématiquement, ils sont la première force politique sur Paris.
Sur 17 toujours. Enfin, le dernier sondage en septembre, c'était 15-17. Alors, il n'y a pas eu de sondage plus récent. C'est pour ça qu'on a du mal à percevoir la dynamique. Traditionnellement, quand vous avez deux concurrents dans un même camp, un candidat officiel, un dissident, assez vite, ouais, l'un des deux fait le trou. Là, on ne voit pas ça. C'est ça qui est très surprenant.
Enfin, les deux sont majoritaires.
Si on ajoute les deux. Ah oui.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est chez Cédric Villani, c'est que il a étrangement quelque chose qui peut jouer en sa faveur, c'est qu'il est moins connu que Benjamin Griveaux. Donc, il a une marge de progression qui peut être beaucoup plus importante. Et ça peut jouer en sa faveur.
François Hernandez.
Non, mais moi, je suis pas très bon en mathématiques, mais
beaucoup de chiffres.
J'ai une longue pratique de la vie politique. Moi, ce qui me frappe, c'est quand un responsable de la majorité, François Bayrou, participe au premier cercle de ceux qui conseillent le président de la République, avance dans le débat public en disant « un plan B, ça serait
on
une solution ».
On est parti pour perdre, oui.
C'est une très, très mauvaise nouvelle pour le candidat qui a été investi par cette même majorité. Là, je parle de Benjamin Griveaux. Quand dans votre carrière, on vous dit « il faudrait peut-être un plan B par rapport à vous-même », là,
le
vous
dernier,
commencez à
François
vous poser
Fillon,
des questions.
De
quand on parle de plan B en politique, en général, c'est que les carottes commencent déjà à roussir, on va dire.
Mais il existe ce plan B, Judith Weintraub, où on est vraiment dans du wishful thinking, de la pensée magique. Agnès Buzyn, dont le nom était avancé, dit « alors non, pas du tout,
c'est
pas mon engagement ».
Mais c'est pas la première fois qu'elle dit non, en plus.
Jean-Louis Borloo, qui est cité, on l'entend pas, on n'a pas le sentiment qu'il fait preuve non plus d'un enthousiasme
débordant.
Non, Jean-Louis
Borloo, pareil, son nom a circulé sous d'autres majorités.
Non, mais s'il y avait une solution évidente, on la connaîtrait déjà. Le problème devant lequel on est, c'est que cette rivalité, elle fige le paysage au moment où on parle. Et s'il fallait imaginer une autre solution, il faudrait déjà commencer à travailler à l'exfiltrage des deux candidats actuels, ce qui n'est pas une mince opération. Puisque
leur trouver des postes, c'est ça que ça veut dire.
Enfin, leur proposer une solution qui préservaient leur dignité dans les circonstances actuelles.
On va parler d'une autre élection dans quelques instants. Un bref débat sur une présidentielle, celle-là, en Algérie, 20h50 sur France Info. Maureen Suinard nous a rejoint, le rappel de l'info.
La mort d'Abou Bakar al-Baghdadi est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Ce sont les mots du président de la République française sur le réseau social Twitter. Il réagit à l'annonce du président américain. La mort du chef du groupe État islamique pendant un raid en Syrie, c'était la nuit dernière. Les Argentins élisent leur président aujourd'hui. Le chef de l'État sortant, Mauricio Macri, n'est pas le favori. Les derniers sondages donnent vainqueur le candidat de centre-gauche, Alberto Fernandez. 8 personnes retrouvées en état de légère hypothermie dans un camion à Calais. Il se trouvait sous la cellule frigorifique, sous une trappe fermée de l'extérieur. Le camion, conduit par deux Roumains, s'apprêtait à prendre le ferry pour la Grande-Bretagne. Ils ont été interpellés. Les représentants du Conseil français du culte musulman à l'Élysée demain matin, Emmanuel Macron les reçoit. Pour le président du CFCM, il y a beaucoup à faire remonter sur le sentiment actuel de la communauté musulmane. Arrêtons la stigmatisation, dit Dalil Boubaker à France Info.
La direction de la SNCF dénonce le jusqu'au boutisme des grévistes qui perturbent la circulation sur les TGV Atlantique. Seulement 3 trains sur 10 prévus demain. La grève au sein du technicentre de Châtillon dans les Hauts-de-Seine a démarré lundi dernier. Un désaccord sur l'évolution des conditions de travail. Sur France Info, le secrétaire fédéral Sudrail sur France Info affirme que la direction ne veut pas discuter. Plus que 10 minutes avant le coup d'envoi du Classico, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille. En clôture de la 11e journée de Ligue 1, Mbappé titulaire, Cavani sur le banc. Aujourd'hui, Rennes a battu Toulouse 3-2, match nul, 2 buts partout entre Saint-Étienne et Amiens.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neïla Latrousse.
Merci à Maureen Suignard pour ce point complet sur l'information. Avant d'aller en Algérie, une question pour Judith Weintraub. On évoquait cette situation à Paris, François Bayrou qui souhaite un plan B qui puisse neutraliser en quelque sorte le duo entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. S'il fallait neutraliser ce qu'il dit, il dit une opposition stérile au sein de la majorité, qui pourrait le faire et est-ce qu'on est sûr que ce serait efficace? Est-ce que l'Élysée qui tape du poing?
Mais c'est une idée de Bayrou. Pourquoi vous me demandez à moi? Moi, je ne sais absolument pas. J'imagine pas un instant que François Bayrou pense à lui-même. Il est à Pau. Enfin, il est.
Mais est-ce que c'est possible de débrancher aujourd'hui, comme on dit, Cédric Villani ou Benjamin Griveaux? Est-ce qu'il suffit de dire il y a un plan B et puis c'est bon, c'est réglé?
Ça me paraît une idée très très bizarre. Surtout, je vous dis, le plan B, c'était Édouard Philippe.
Plan B, c'est qu'il faudrait qu'il s'impose. On le voit pas se dessiner, ce plan B.
Parce qu'on voit les uns et les autres commencer à composer les listes. Ça fait des mécontents, si
derrière...
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que les Parisiens sont vraiment dans la campagne déjà? Est-ce que les Français, plus largement, sont vraiment dans les municipales? Je disais tout à l'heure que traditionnellement, quand vous avez un candidat officiel, un dissident, on voit assez vite l'un des deux s'envoler, puis l'autre s'enfoncer.
Non, mais tout le monde est parti très vite dans cette campagne municipale.
Je crois que les Français n'ont pas la tête à ça,
et
les Parisiens,
sur la base
pas plus que les autres.
Hidalgo bashing qui a fait recette pendant un certain temps. Là, on revient à une situation un peu plus équilibrée sur le plan politique. Au début, pour être un bon candidat, il suffisait de dire du mal d'Anne Hidalgo. Maintenant, ça suffit plus vraiment. Donc, on voit bien quelle est la nature du problème.
Autre problème, à quelques kilomètres de la rive sud de la France, de la côte sud de la France, 22 dossiers de candidature déposés en Algérie auprès du Conseil constitutionnel, 9 mois de révolution. Et cette question, malgré les candidatures, est-ce que la présidentielle du 12 décembre aura bien lieu? Les manifestants battent toujours le pavé et réclament toujours la chute du régime.
Inédit en Algérie, les juges commencent une grève illimitée à partir de demain pour protester contre la justice instrumentalisée évidemment par le nouveau pouvoir en Algérie, sans parler du mardi qui va suivre, le mardi des étudiants, jeudi comme chaque jeudi, rassemblement des parents et des familles des détenus, ce qui va aboutir à un vendredi qu'on qualifie déjà comme historique, le 37e vendredi, qui coïncide avec le 1er novembre, qui est la fête nationale algérienne, qui commémore le début de la guerre de libération contre la France en 1954. On annonce donc une semaine décisive dans la scène politique algérienne.
On vient d'entendre Khaled Drarni, un journaliste en Algérie et correspondant de nos confrères de TV5 Monde, François Hernenwein, rédacteur en chef éditorialiste à La Croix. Une première présidentielle annulée en Algérie le 18 avril, une deuxième le 4 juillet, celle-là avec des manifestants qui réclament son annulation. Est-ce que dans l'histoire, on a assisté à une situation pareille dans un autre pays ?
Ça a dû arriver, je n'ai pas la mémoire profonde présidentielle bouleversée, mais enfin, si votre question est-ce que ça fait désordre, la réponse est oui. Ça fait passablement désordre. Alors la question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'avec 22 candidats, l'offre politique ne paraît pas crédible à une partie significative du peuple algérien? La réponse, elle est assez simple. Les deux favoris de cette présidentielle, M. Tebboune et M. Benflis, sont d'anciens premiers ministres de Bouteflika. Dans un paysage comme ça, alors que la population algérienne est sortie dans la rue pour demander un renouvellement, a fait preuve de maturité dans son expression. Elle a été soigneusement encadrée par les militaires et par l'armée. Les militaires qui tiennent les ficelles du pouvoir et la police qui tient la rue. Donc, elle subit une pression qui rend cette élection presque parodique. 22 candidats à une offre aussi peu
crédible.
Porteuse d'espoir, en tous les cas. Je comprends que ça pose des problèmes. Maintenant, c'est pas un sujet de plaisanterie, cette histoire. Je pense que la France et le monde entier a besoin de stabilité en Algérie. Donc il va bien falloir trouver une solution, mais la solution, elle ne peut être qu'un compromis entre les aspirations de la rue et des héritiers plus ou moins fins de Monsieur Bouteflika.
Judith Weintraub, pour le Figaro Magazine, est-ce que la France regarde avec inquiétude ce qui se passe en Algérie? C'est vrai qu'on a l'impression que le sujet a un peu disparu des préoccupations quotidiennes, et c'est pourtant, d'une certaine façon, c'est le pays voisin par la Méditerranée.
C'est le pays voisin. Historiquement, c'est très important. Il y a beaucoup de Français d'origine algérienne et d'Algériens en France. Bien sûr que ça préoccupe les Français. Et la confusion est absolument totale. Enfin, ce qu'a dit François est tout à fait exact. C'est même à se demander d'ailleurs s'il ne vaudrait pas mieux que l'élection soit repoussée plutôt qu'elle ait lieu dans des conditions où elle sera tellement critiquée par les gens qui ont des aspirations démocratiques en Algérie. C'est pire que tout.
En tout cas, la semaine sera suivie avec attention au niveau de France Info. Khaled Rahni nous rappelait un certain nombre de rendez-vous, de manifestations et de contestations cette semaine à venir en Algérie, 20h57 sur France Info. Merci à nos informés. François Ernenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. Votre une de demain, François.
Elle est consacrée au synode d'Amazonie, qui a été un événement qui a porté la possibilité d'avoir des prêtres mariés et des femmes diacres, mais qui a aussi, et c'est ça l'essentiel, entendu les aspirations du peuple d'Amazonie, à la différence de Bolsonaro, qui, lui, l'écrase assez sévèrement.
À retrouver dans La Croix demain.
C'est un message d'espoir, et ça prouve que la figure de François est quand même porteuse de revêtement dans l'Église.
Et à retrouver en kiosque demain, La Croix. Merci aussi à Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro Magazine, David Bouhery, journaliste éditorialiste au service économie et sociale à France TV, Sarah Pinard, directrice des études et prospectives chez Via Voice. Demain à cette même place, Jean-François Aquili. Bonne soirée sur France Info.